explorons les sentiers de Dieu, les sentiers de la grâce. Tiens, on était à cœur de parler de la grâce de Dieu. C'est les différentes façons qui se servent pour nous toucher, nous atteindre dans notre vie de tous les jours. Et le verset qu'il me donnait, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 et versets 14 à 21. D'abord, ça parle de la grâce de Dieu qui dépend de ce que Dieu fait. Ici, on va regarder un verset qui parle de ce que Dieu fait, lui, dans notre vie, qui dépend nullement de nous. C'est le choix de Dieu par rapport à nous. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 14 jusqu'au verset 21, ça dit « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne suis-je pas, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? » Si tout le corps était oui, où serait l'œil? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chaque membre, chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres et un seul corps. Ça, c'est le choix que Dieu fait. Il nous a pris à cause de son sang, du sang de son Fils, il nous a mis dans son corps, il nous a fait entrer dans son royaume, puis il nous a donné une place. Cette place-là, elle dépend pas de ce que moi j'ai choisi. C'est Dieu qui choisit la place. C'est Dieu qui choisit le membre que je vais devenir. Parce que c'est Dieu qui a pensé de toute éternité un plan pour chacun de notre vie. Ça dépend pas de ce que moi je désire, de ce que moi je choisis. C'est Dieu qui choisit une place pour chacun. C'est Dieu qui décide un tel va être une ouïe, un tel va être l'odorat, un tel va être un pied. C'est Dieu qui décide ça. C'est pas nous autres. On n'a rien à faire là-dedans. On a juste à trouver la place que Dieu a pour nous autres et à entrer dedans par la soumission. Cette grâce-là, c'est une grâce qui vient de Dieu, qui dépend de Dieu. Ça, on n'a rien à faire là-dedans. C'est comme un casse-tête géant où chaque pièce de ce casse-tête-là est unique, est différente. Dans un casse-tête, une pièce ne va à une seule place. Tu vas mettre la pièce juste à cette place-là, elle ne peut pas aller ailleurs. Chaque pièce est destinée à une seule place. C'est la même chose dans le corps de Christ. Chacun de nous autres, on a une fonction dans son corps. On a été créé, formé pour être un membre. On ne peut pas être ailleurs que la place que Dieu a choisie pour nous autres. Parce que Dieu a choisi une place, une forme. Parce que chaque morceau de casse-tête, ça a une forme précise. Puis sur cette forme-là, il y a un destin préparé qui va à une seule place. Puis c'est la même chose dans le corps de Christ. On a été formé par Dieu. Il nous a donné une forme. Il nous a donné des dons, une fonction dans son corps. Puis cette fonction-là, c'est pas nous autres. On ne l'a pas choisi. C'est Dieu qui choisit ça pour nous autres. Il nous destine à une seule place. Ça, c'est la grâce de Dieu qui ne dépend pas de nous. Mais il y a des parties de la grâce de Dieu qui agissent avec nous. Et on va regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, 12, 13.
Car personne n'est déposé un autre fondement que celui qui a été posé sans voir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du charbon, l'œuvre de chacun sera manifestée. 13. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans les faits. Et les faits éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun.
Amen. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, Il parle de si quelqu'un. Ça veut dire, il parle de nous, ça. C'est nous qui avons une part de bâtir quelque chose. Si quelqu'un bâtit, c'est notre choix à nous, ça. Tu choisis la forme, ça ne dépend pas de nous. La forme qu'on a dans le corps, la fonction dans le corps, ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui donne ça. Mais ici, il parle d'autres choses. Il parle de la nature du travail qui va être fait par, avec l'Esprit de Dieu. L'or, l'argent, les pierres précieuses, du bois. Il parle de la qualité de ton service pour Dieu, de la nature de ton service pour Dieu, de quelle sorte de service tu vas rendre à Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'amour envers toi. C'est l'amour que Dieu donne envers nous. Mais nous, la réponse qu'on donne à Dieu, la manière qu'on redonne à Dieu l'amour qu'il nous donne, ça dépend de nous. C'est moi qui choisis d'aimer Dieu de la même manière qu'il m'aime. Je peux choisir d'aimer Dieu lui-même d'une façon passionnée, 100%. Dieu, son amour pour nous, il l'a démontré à la croix. Il a tout donné, il a donné le meilleur, son Fils unique. Mais moi, la réponse, le retour que je vais faire envers Dieu, lui-même, mais est-ce que moi, je vais l'aimer? Je vais l'aimer de la même manière que lui-même. Est-ce que je vais l'aimer à 10%, à 20% ou à 100% de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force? Ça, ça dépend de moi. C'est la grâce de Dieu, c'est son amour qui va insuffler en moi l'amour que je vais avoir pour Dieu et pour les autres. Mais la réponse, c'est moi qui choisis si je vais bâtir ma vie avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, ou juste du bois, du point du chaume, c'est-à-dire de piètre qualité. C'est comme si tu bâtirais une maison avec du foin. Bâtir une maison avec du foin, ça ne tiendra pas fort. Mais c'est la même chose, c'est moi qui choisis dans ma relation avec Dieu. Comment je réponds à Dieu? De quelle manière je retourne l'amour que je reçois de Dieu? C'est un peu comme la lune. La lune est une planète morte qui ne fait que refléter la lumière du soleil. Dieu, c'est le soleil. Il nous envoie sa lumière, son amour vers nous. Et nous, nous pouvons choisir de refléter, de retourner à Dieu cet amour, puis de la retourner vers les autres, l'amour de Dieu, envers Dieu et envers les autres. Nous sommes comme une lune qui reflète, parce que nous n'avons pas d'énergie en nous-mêmes. Hein, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui montre son amour envers nous, puis nous, nous avons le choix de refléter cet amour-là, de la refléter totalement, ou de la refléter juste en partie. Ça, c'est mon choix. C'est la grâce de Dieu qui veut me pousser à aimer mon prochain, à aimer Dieu, comme lui l'aime. C'est la grâce de Dieu qui me pousse, mais il y a une liberté. J'ai la liberté de choisir de quelle manière, avec quelle nature, quelle va être la nature de mon amour envers lui, quel est mon service, de quelle nature que je vais rendre à Dieu cet amour-là. Parce que Dieu nous demande de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Il dit, le premier commandement, c'est aime Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Dieu nous demande de l'aimer entièrement. Il nous demande cet amour-là entièrement quand Jésus est mort sur la croix. Mais là, il attend de nous une réponse. Parce qu'on est dans une relation avec Dieu. C'est une relation qu'on a avec lui. Il attend une réponse de notre part. Parce qu'il pourra, il ne peut pas forcer ça. Il peut nous donner des dons, il peut nous donner une forme. Il dit, c'est ça que je veux que tu sois dans mon corps. Mais la qualité de cet amour-là que je vais donner à Dieu, ça dépend de moi. La grâce de Dieu va m'y pousser, va m'aider, va me rejoindre là-dedans, mais j'ai une réponse, j'ai une part à faire là-dedans. Je veux m'arrêter sur, ça dit au verset 11, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Un autre fondement. Il faut bien remarquer ici que l'image que l'apôtre Paul emploie, quand il parle d'un fondement, c'est pas n'importe quel fondement. C'est pas comme une maison que tu formes, que tu fais un solage en ciment, puis là tu bâtis des murs dessus. Puis là, le solage est fait une fois pour toutes, tu n'as plus besoin de toucher le solage. C'est pas ce genre de fondement-là que l'apôtre Paul parle. Parce qu'on va le voir. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Les versets 4 et 5. 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 et 5.
Ok. Approchez-vous de lui, Pierre, vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sans corps et sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Amen. Approchez-vous de lui, Pierre vivante. Le fondement, Jésus-Christ, c'est pas un fondement mort, c'est un fondement vivant. C'est une personne, c'est pas une chose. Jésus-Christ est une personne. Donc, on a une relation avec ce fondement-là. Mmh. C'est pas quelque chose que tu peux dire, j'ai mis le fondement, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, puis maintenant je suis sauvé. Non, c'est une relation. C'est un fondement vivant. C'est beaucoup plus comme un arbre avec des racines. Puis si tu n'entretiens pas ta relation avec le cèpe qui est Jésus-Christ, tu vas mourir. Parce que c'est une relation, c'est vivant, c'est un fondement, mais c'est pas comme une maison, c'est un arbre. Puis il faut que tu te tiennes attaché à Jésus-Christ. Il faut que tu t'approches de lui. Parce que c'est vivant, c'est une pierre vivante. Puis nous aussi, il dit, et vous-même comme des pierres vivantes. On a une relation. On est bâti sur ce fondement, mais c'est une relation. C'est jamais quelque chose d'acquis. Hein, c'est comme l'homme qui se marierait avec une femme et qui dirait, maintenant je suis marié, elle est ma femme pour toujours. Peu importe ce que je fais. Je vais la laisser là, je vais faire ce que je veux. C'est ma femme. Je suis marié pour toujours, c'est ma femme. Ça marche pas comme ça. La femme, c'est pas un objet. C'est une personne.
Amen.
Ben, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est pas un objet. C'est pas une chose qu'on met dans un coin et dire, ben là, je me suis occupé de toi. C'est pas ça. C'est une personne. C'est une relation vivante qu'on a avec lui. Dieu est amour. Dieu est une personne et il veut qu'on s'approche de lui. Parce que lui, il est une personne vivante. Il attend de nous une relation. Aidez-vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, une maison vivante, spirituelle, où l'Esprit de Dieu agit. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Ça, ça parle de Jésus-Christ, le fondement, la pierre angulaire, la pierre choisie, mais la pierre vivante. On a une relation avec lui. Une relation vivante. Ça, c'est le premier point que le Seigneur me faisait ressortir. Mais il y a un deuxième point, quand il parle du fondement, qui me faisait ressortir aussi. Ça dit bien, voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Souvent, on lit la parole et on ne s'arrête pas au mot. Mais quand il dit « Je mets en Sion une pierre angulaire », c'est très important le mot « Sion ». Ce n'est pas un hasard que c'est écrit comme ça. Dieu a voulu dire quelque chose avec ce mot-là « Sion ». Parce que, en plus d'avoir un fondement vivant, il y a un lieu de rencontre avec Jésus-Christ. Il y a un lieu, une place destinée par Dieu où qu'on rencontre Jésus-Christ. Cette place-là, c'est mentionné que c'est en Sion. Qu'est-ce que ça veut dire, Sion? La maison d'Éternel.
Mais Sion, c'est...
non.
Sion, c'était la montagne où la maison de Dieu a été construite. C'est la montagne que David, inspiré par Dieu, a choisie. C'est la place que je dois bâtir la maison de Dieu. C'était Sion. C'était la maison... Mais c'était une image. Parce qu'ici, il ne parle pas de la Sion naturelle, une place physique. Il parle d'une place spirituelle. Puis on le voit en Hébreux, chapitre 12, le verset 22 à 24. Hébreux, chapitre 12, verset 22 à 24.
Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion,
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Amen. Alléluia. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Remarquez que c'est pas vous, vous allez vous approcher un jour. C'est pas au futur. C'est quelque chose de déjà accompli. C'est déjà fait. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. D'un lieu, dans les lieux célestes, où c'est déjà fait, où c'est déjà approché à cause de Jésus-Christ. Puis il mentionne plusieurs choses qui ont cette montagne de Sion-là. La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, le juge qui est le Dieu de tous, les esprits parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il y a quelque chose de spécial. C'est que dans cette place-là, il y a le sang de l'aspersion. Le sang de l'alliance. Le sang qui était aspergé parce que on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans le sang.
Mm-hmm.
Le sacrificateur, c'est une image qu'il prenait parce que dans l'Ancien Testament, la seule place qui était agréée par Dieu, le Saint des Saints, il y avait un endroit dans le Saint des Saints qu'on appelait le propitiatoire au-dessus de l'arche. C'est-à-dire, c'est là que le sang de l'agneau devait être aspergé. On devait asperger le propitiatoire. S'il n'y avait pas le sang qui était aspergé là, le souverain sacrificateur qui rentrait dans ce lieu très saint-là mourait. Parce que tu ne pouvais pas rentrer sans le sang. Ça nous parle que dans ce lieu céleste, cette Sion, le sang de Jésus a été aspergé sur nous. C'est la place où le pardon de Dieu est acquis à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Si on ne se rappelle pas de ce sang-là, on n'a pas d'accès dans le lieu très saint. Sans le sang de l'agneau, il n'y a pas d'accès. Aujourd'hui encore, si je m'approche de Dieu, même si ça fait 20 ans, 30 ans que je suis dans le Seigneur, je ne peux m'approcher de Jésus que par le sang. Pas parce que là j'ai une bonne vie, que je suis un homme de prière, puis que je prie, puis que je donne, puis que je fais toutes sortes de bonnes choses pour Dieu. Ça ne me donne pas accès au lieu très saint, ce que je suis. C'est seulement le sang de l'aspersion. C'est à cause de ce sang-là. Ça dit que sur le propitiatoire, on aspergeait le sang et les chérubins de gloire regardaient une seule place, le propitiatoire. Ils regardaient le sang. La gloire de Dieu, la présence de Dieu n'était possible qu'à cause du sang. S'ils ne voyaient pas le sang, il n'y avait pas de propitiation. De propitiatoire, ça veut dire de pardon, d'acceptation par Dieu. Il n'y avait aucune acceptation par Dieu s'ils ne voyaient pas la foi dans le sang. Parce que les chérubins de gloire étaient là, ils ne regardaient que cela. Et c'est une image pour nous autres. Si on veut s'approcher de Dieu, on ne s'approche pas parce qu'on est une bonne personne. On n'a rien à donner à Dieu. On s'approche parce que Jésus a payé le prix de mon rachat.
Alléluia.
Parce que Jésus a coulé, son sang a coulé pour me permettre d'entrer dans sa présence.
Mm-hmm.
Ça, c'est un acte d'humilité et de foi. C'est un acte d'humilité parce que ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par ma propre justice, c'est à cause de la justice de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que je suis bon, c'est parce que Jésus a été bon. Puis c'est à cause de la foi en lui. Je place en lui ma foi. Puis c'est à cause de ça que j'ai un accès dans le Sion céleste. Dans la présence même de Dieu. On le voit juste un peu avant, Hébreux 10, les versets 19 à 21. Ça parle que le lieu de rencontre, qu'il y a une porte, qu'il y a une route. Non seulement le fondement est vivant, mais la route, la place pour entrer, le lieu qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu, celui-là est même vivant. On le voit ici, Hébreux 10, 19 à 21. Il dit ainsi donc, frère, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Remarquez bien les mots employés. Une libre entrée. Le ticket a été payé par le sang de Jésus. Il y a une porte là. L'entrée, c'est le sang. Il dit le voile qui nous permet d'entrer, parce que devant le Saint des Saints où il était le propitiatoire, il y avait un voile. Mais le voile qui a été déchiré quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est ce voile-là. Il mentionne, l'apôtre Paul mentionne que on rentre au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair déchirée. Parce qu'il a été meurtri, parce qu'il a été brisé pour mes péchés, je peux entrer dans sa présence. Le sang aspergé, c'est le lieu de rencontre que j'ai pour pouvoir rencontrer Dieu. Je viens toujours en me souvenant de ce sang-là. Je dois mettre ma foi dans ce sang-là, ma confiance dans ce sang-là, pas en moi-même. Toujours dans ce sang-là. Même si j'ai péché, je dois demander pardon et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Il n'y a aucun obstacle entre moi et Dieu, sauf mon incrédulité. Parce que Jésus-Christ a pris tous mes péchés sur la croix. La seule chose qui peut m'empêcher d'approcher de Dieu, c'est mon incrédulité. Mon refus de croire ce que Jésus a fait pour moi, ce que Dieu m'a donné à la croix en Jésus-Christ.
Ou de se baser sur notre propre justice.
Ou l'orgueil qui consiste à vouloir justement se croire bon devant Dieu, puis dire que je suis assez bon pour m'approcher de Dieu. Cet orgueil-là, ça pue aux yeux de Dieu, puis ça empêche justement les gens de s'approcher de Dieu. Mais on voit ce lieu-là, c'est-à-dire c'est une route vivante. Il y a un fondement vivant qui est Jésus-Christ lui-même, mais il y a une route vivante. La route vivante, c'est le sang et le corps brisé de Jésus-Christ. C'est le moyen par lequel je m'approche de Jésus, de Dieu. C'était une image parce que sous le propitiatoire, il y avait l'arche. L'arche représente Jésus-Christ. Notre relation qu'on a avec Jésus-Christ. Mais sans le propitiatoire qui était là, la place où le sang était aspergé, impossible d'entrer en relation avec Jésus-Christ. Impossible de rentrer dans la présence de Dieu puis de voir la gloire de Dieu dans ma vie se présenter. Mm-hmm. Parce que c'est seulement à travers du propitiatoire et du fondement vivant. Puis on voit aussi cette image-là, Ésaïe 25, versets 7 et 8.
Okay. Et sur cette montagne, il éneras-tu les voiles qui voilent tous les peuples? La couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie la larme de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé.
Amen. C'est-à-dire, en ce jour, on dira, voici c'est notre Dieu. En qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Puis il parle bien sur cette montagne. Quelle montagne? La montagne de Sion. Il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Sur cette montagne, il y a une place, il y a un lieu de rencontre. C'est là où le sang de l'agneau a été aspergé. On peut entrer dans sa présence au travers du sang de l'agneau. Puis il dit au verset 6 de ce même chapitre-là, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux, clarifié. » Ça parle du Saint-Esprit, le vin nouveau. Le
Alléluia! Oh, merveilleux
Des mets succulents. Sur cette montagne,
le bonheur.
Au travers du sang de l'agneau, le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous remplit d'une ivresse.
Alléluia.
Pour passer au travers des souffrances de la vie. Quelqu'un de ivre, il ne sent plus la souffrance. Quand on est rempli du Saint-Esprit, peu importe ce qui nous arrive, on passe au travers. Parce qu'on a la ivresse du Saint-Esprit. On a la grâce qui vient de la puissance du Saint-Esprit. Mm-hmm. On peut passer au travers. Mais ça, c'est ce que Dieu a fait sur cette montagne, la montagne de Sion. Là où le sang de l'agneau a été répandu, aspergé pour nous autres. Fait qu'on a une relation vivante avec le fondement, mais on a, c'est au travers d'un lieu de rencontre vivant. La chair et le corps de Jésus-Christ qui a été brisé pour nous autres. Cette image-là était très, très forte, très présente, toujours présente, depuis le début. Déjà avec Moïse, Dieu disait, c'est le seul moyen que vous avez de vous approcher de moi. Je vais finir avec ce verset-là. Exode 30.
Okay.
Non, je me suis encore trompé. C'est Exode 29.
Exode 29.
29. Ouais, 42, 43.
Il dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous, mais que je te parlerai.
Amen.
44, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire.
Amen.
Alléluia. Wow.
L'autel des sacrifices. Là où le sacrifice perpétuel était offert soir et matin. Soir et matin, les Juifs étaient ordonnés de sacrifier un agneau le soir et un agneau le matin.
Mm-hmm.
C'est une image. Parce qu'en tant que sacrificateur, comme Pierre nous a dit tantôt, on est des sacrificateurs, on a à offrir, à se rappeler soir et matin de cet agneau qui a été sacrifié pour nous autres.
Mm-hmm.
On doit se souvenir et en faire notre porte d'entrée dans la présence de Dieu.
Mm-hmm.
C'est là que je me rencontrerai avec vous. Ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Il y a un lieu qui est le corps et le sang de Jésus brisé pour nous. Jésus disait dans Jean chapitre 6, l'apôtre Jean dit que Jésus disait, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra par moi.
Alléluia.
Qui boit ma chair et qui mange mon sang, l'inverse, qui boit mon sang et qui mange ma chair, vivra par moi. C'est une vie, c'est la vie qui vient de ce que Jésus a accompli à la croix. Puis quand je suis conscient de ça, quand je reconnais cela, un cœur rempli de reconnaissance et de foi, je peux rentrer dans la présence de Christ à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, le sacrificateur, oui, faisait ça soir et matin, il offrait l'agneau perpétuel, l'holocauste perpétuel, et ensuite il entrait devant les chandeliers. Il entrait, il passait devant la cuve d'airain, soir et matin, il se lavait avec la cuve d'airain qui est la parole de Dieu. La cuve d'airain, c'est une image de la... On a besoin de laver nos pensées avec la parole de Dieu. Parce que le monde vient nous souiller, puis nous avons besoin constamment de renouveler nos intelligences avec la parole de Dieu. Constamment, constamment, tous les jours. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours.
Alléluia.
Comme se rappeler et reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ au travers du temps. C'est à tous les jours. C'est une nécessité. C'est quelque chose que les sacrificateurs faisaient à tous les jours. C'est si important que l'image a été donnée dès Moïse, dès l'Ancien Testament. L'image a été donnée. Qu'est-ce qu'un vrai sacrificateur doit faire à tous les jours? Il y avait ces quatre choses-là. Offrir un cœur perpétuel, reconnaître l'action, le sang, le corps de Jésus-Christ. Par lui seul, on rentre dans sa présence. Il y avait la cuve d'airain qu'on se lavait. Ça, c'est la parole de Dieu qu'on doit lire à tous les jours. Se rappeler ce que Jésus a donné comme instruction. Et la vérité nous libère.
Amen.
La vérité de la parole de Dieu nous libère, libère nos pensées, nous montre le chemin à suivre. On se demande quoi faire, quel chemin prendre. La parole de Dieu nous indique. Parce qu'elle va, elle va corriger nos pensées. Elle va redresser nos pensées. Elle va nous instruire dans ce que Dieu demande de nous. Ça, c'est la cuve d'airain. C'est la deuxième chose que le sacrificateur devait passer. Et ensuite, il entrait les sept chandeliers qui représentent le Saint-Esprit, la communion qu'on a avec le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire qui, lui, nous aide, nous donne sa grâce, nous donne sa force pour marcher dans les chemins que Dieu a tracés. Il nous éclaire notre chemin, les sept chandeliers. À tous les jours, le sacrificateur allait entretenir l'huile qui servait à allumer les sept chandeliers. Puis enfin, il y avait dernière chose que le sacrificateur faisait tous les jours, c'est l'autel des parfums. Le parfum qui représente la prière. Une vie, une relation avec Jésus. Une vie constante de prière. Une vie constante où tu fais connaître à Dieu tes besoins. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Tous nos besoins sont déjà été rencontrés à la croix. On a juste à lui dire, à faire connaître nos besoins à Dieu. Et ça dit, qu'est-ce que ça dit? Et lui-même pourvoira selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À tous nos besoins. Lui-même va pouvoir. Mais il faut passer par le chemin que Dieu a tracé pour nous autres. Il faut passer par la croix. Passer par une relation avec Dieu. Prendre le temps de se laisser transformer notre intelligence par la parole de Dieu. Avoir une communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre meilleur ami. C'est celui qui va veiller sur nous autres, qui va nous montrer le chemin. Bon, il est toujours là. Dès le moment qu'on accepte Jésus, le Saint-Esprit vient dans notre vie. Nous devenons le temple du Saint-Esprit, ça dit. Il est toujours là. Et il nous dirige, il nous conduit. Il nous garde dans ses voies. Il nous montre ce que nous devons faire pour lui. C'est ça, c'est la grâce de Dieu présente dans tous les aspects de notre vie. Cette grâce-là veut se manifester. On a un fondement vivant. On a un lieu de rencontre vivant aussi. Parce que le sang de l'agneau, il faut toujours s'en rappeler. Il faut toujours reconnaître, avoir cette humilité-là de cœur pour reconnaître que c'est le travail de Jésus-Christ. Ce que je dis là, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on essaie d'oublier la croix. On ne parle plus juste que Dieu va nous bénir, que Dieu il veut pour nous autres la gloire, il veut
le royaume,
il veut la bénédiction, la prospérité. On ne parle plus juste de cela dans l'Église. Puis on ne parle plus de la croix.
Le fondement.
Le fondement. Il faut se rappeler de ça. Que si on reçoit quelque chose de Dieu, on ne l'a pas mérité. C'est une pure grâce. Puis le plus important, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la richesse. Le plus important, c'est ma relation avec Christ. Ma relation avec Dieu. C'est la chose la plus importante. Si je n'ai pas cette relation-là, je vais périr. Je vais perdre le salut que Jésus-Christ m'a acquis à la croix. Parce que c'est une relation. Le salut, c'est quelque chose de précieux. Puis Dieu dit, ne rejetez pas la grâce de Dieu. Ne la recevez pas en vain. On peut recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est ma part à moi de retourner. De me laisser entraîner par la grâce de Dieu. Parce que dans le Cantique des Cantiques, ça dit, entraîne-moi et nous courrons à ta suite. Le Saint-Esprit a le pouvoir de nous entraîner. C'est sa force. Il suffit simplement de se laisser diriger, guider par lui, de marcher dans ses pas, de croire, de toujours se rappeler que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ a payé, a été suffisante et il a tout accompli en soi. Tous les problèmes que je rencontre dans ma vie trouvent une solution à la croix. Tout est là à la croix. Ça dit qu'à la croix, il a été meurtri pour mes maladies. Ça dit qu'à la croix, il a été appauvri à cause de ma pauvreté. Tout a été à la croix. La malédiction qui était sur ma vie, à cause de ma vie de péché, Jésus-Christ l'a tout porté. Il a porté toute la malédiction que moi j'aurais dû porter. Il a complètement porté. Ça dit qu'en Jésus-Christ, toute bénédiction a été acquise dans les lieux célestes pour moi. Ça, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Mais il faut que je reste centré. Christ, une relation avec Christ est sur la reconnaissance dans son sang. Toujours reconnaître que c'est à cause de ce sang précieux-là. Même si ça fait 30 ans, 40 ans que je suis dans le Seigneur, c'est à cause de ce sang-là aujourd'hui que je m'approche de Jésus, que je suis dans sa présence. Je dirais que c'est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. C'est garder ce premier amour qu'on a avec Dieu. Cette première relation qu'on a eue avec Jésus au travers de son sang, ne jamais oublier d'où on vient. Ça dit dans l'Apocalypse, rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé, souviens-toi d'où tu viens. Toujours se rappeler. Un cœur d'humilité. Un cœur de foi, mais d'humilité. C'est souvent ça qu'on oublie aujourd'hui dans l'Église. On oublie l'humilité. On se pense que, parce que ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur, là, je suis quelqu'un, puis j'ai une relation avec Jésus, puis... Mais ma relation avec Jésus, si j'oublie la croix, je ne suis plus rien. J'en ai même plus de relation avec Jésus si je passe pas par la croix. C'est toujours au travers de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Ça, ça permet l'humilité, ça permet la grâce de Dieu d'abonder dans ma vie. Amen. Alléluia.
Amen.